Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, Marianne Paquette au micro, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Est-ce que c'est le printemps, 21 mars? En tout cas, ça s'en vient incessamment, bien sûr, et on l'attend avec impatience. Aujourd'hui, Christiane Campagnat poursuit cette série de chroniques sur l'histoire et les grands noms de la médecine et de la science. Christiane sera en studio pour dresser le portrait de la première femme médecin canadienne-française. C'est également l'une des fondatrices de l'hôpital Sainte-Justine, le premier hôpital pédiatrique canadien-français. Je parle de Irma Levasseur. Et vous allez voir une chronique qui me plaît bien parce que, d'une part, oui, Irma Levasseur est un de ces grands noms de la médecine et de la science, mais en même temps, ça dresse un petit peu aussi l'histoire de la femme au sein de la médecine et de la science. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Également, j'ai souvent entendu dire, et ça m'a toujours fait bien sourire, qu'être parent, être à la tête d'une famille, c'était un peu comme gérer une petite PME, une petite moyenne entreprise. Et je me disais aujourd'hui, en préparant l'émission, que c'était pas complètement fou, hein, parce que si l'on administrait notre famille comme à l'aide, là, si on s'outillait de concepts qui sont empruntés du monde de l'entrepreneuriat, du monde des affaires, si on soignait nos relations familiales, comme on le fait avec des collègues de travail, d'une façon plus professionnelle, donc plus soigneusement, avec une meilleure analyse, ben, peut-être que ce serait plus harmonieux au sein de notre famille. Et tout ça, ben, en ayant une vision bien, bien claire, avec des objectifs établis, un plan, des stratégies et un esprit d'équipe. Et c'est tout ça que propose Annie Germain, qui est auteure, sexologue, coach et conférencière dans ce nouveau livre intitulé « La famille, une sacrée entreprise ». On lui parle à l'instant. Annie Germain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, ici en studio. La famille, une sacrée entreprise, outils et stratégies pour des relations harmonieuses, c'est sorti aux éditions de l'Homme. C'est co-écrit avec une grosse équipe, notamment Annie Richard, Nicolas Beffort, mais également...
Oui, ils sont aussi co-directeurs.
Avec vous, voilà, trois co-auteurs, mais également avec Nancy Doyon, oui, Brigitte Durruty, bien connue ici à l'émission, et d'autres auteurs qui viennent un petit peu partout, là, pas juste ici au Canada.
Oui.
Une façon d'illustrer que la famille, ça se passe un peu partout et ce, ailleurs dans le monde. Là, il y a les mêmes enjeux et les mêmes défis.
Exactement. Et pour nous, c'est important. On parle d'une sacrée entreprise, en fait, une entreprise qui est sacrée, qui est importante pour nous. Puis, dans le livre, entre autres, on parle beaucoup de la richesse des diverses perceptions.
Oui.
Donc, c'est important pour nous, en tant qu'auteur et co-directeur, de mettre le lecteur au centre du livre et non pas seulement qu'une approche.
Mm-hmm.
Donc, on voulait prêcher par l'exemple, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, en allant chercher plusieurs collaborateurs pour qui la famille, c'était justement sacré, c'était important.
Mm-hmm.
De joindre nos perceptions différentes, nos approches dans un but commun, c'est-à-dire d'outiller les parents à devenir leur propre coach, finalement.
Oui. L'une des choses que j'ai trouvées nouvelles, bon, il y a plein d'idées nouvelles dans ce livre-là, mais l'un des aspects, c'est la redéfinition du rôle de parent que vous voyez un peu comme un coach ou comme un leader. C'est rare que l'on entend parler d'un parent de cette façon-là.
Oui, puis aussi l'analogie, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, avec l'entreprise.
Oui.
Parce que pour nous, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, on a vraiment la vision que c'est un peu comme une PME, si on veut. Puis, à l'intérieur d'une PME, bien, probablement, on a diverses sortes d'entreprises, de PME. Tout comme nous, à l'intérieur du livre, on s'adresse à plusieurs types de familles. Ça peut être autant les familles monoparentales, homoparentales, reconstituées que nucléaires, par exemple. Puis, quand vous parlez de leader, bien, c'est important pour nous, la vision qu'on a, les auteurs dans le livre, c'est vraiment qu'en entreprise, c'est important d'avoir un leadership qui est présent, un leadership qui est humain, qui est empreint d'ouverture, mais aussi qu'on est capable finalement de s'affirmer en tant que leader quand c'est le temps,
oui.
Puis de respecter notre vision, notre mission, la raison d'être finalement dans l'entreprise, et c'est l'image qu'on présente finalement, des outils en lien avec ça à l'intérieur de la famille, une sacrée entreprise.
Mais Annie, la famille en ce moment, et vous l'illustrez bien, je trouve, dans ses propos, vit beaucoup de défis, mais
oui.
Les adultes aussi, les
oui.
citoyens en 2016,
oui.
lorsqu'on est un travailleur, il y a beaucoup de défis au travail, beaucoup d'enjeux. Et souvent, au travail, bien, on performe bien parce que le patron le demande, parce que la société le requiert. Puis bien là, la famille, c'est un petit peu délaissé. Est-ce que c'était une façon de bien faire passer le message, de dire ça peut se passer aussi bien dans votre famille qu'au travail?
Bien, on espère que oui, que le message passe bien, puis que ça va bien outiller les parents, justement, parce que nous, l'impression qu'on a, c'est que la technologie nous a amené, la fine pointe de la technologie nous a amené beaucoup... d'outils, de machines pour nous aider justement à prendre ça plus cool, si j'ose dire ainsi.
Ouais.
Et c'est pas ce qu'on fait. En fait, c'est qu'on en prend plus et plus et plus encore. Généralise, évidemment, là, c'est pas tous les parents qui font ça, mais moi, les parents que je rencontre dans mon bureau de coach, et je sais que mes collègues, c'est souvent ça, on rencontre beaucoup des parents qui sont essoufflés, qui ont que ouais. de bonnes intentions. Ils veulent être des bons parents, ils veulent être des bons travailleurs, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes partout. Mais souvent, ils passent la journée au travail et quand ils arrivent à la fin de la journée, ils sont essoufflés. Donc, c'est là qui, parfois, ça répond peut-être à votre question tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, ils arrivent à la maison et là, ils ont moins d'énergie. Et bien, c'est ça, ça fait que peut-être parfois, ils ont la mèche courte, par exemple,
oui.
ou ils vont prendre personnel certaines situations qu'ils vont vivre avec leur enfant ou encore avec leur conjoint ou leur conjointe.
Ou oublier, justement, que le conjoint, la conjointe peut amener quelque chose,
oui.
peut les aider de revenir...
En équipe.
En équipe. Et ça, il y a un chapitre là, accordé à cette équipe, l'équipe parentale.
Oui, exactement.
Est-ce qu'on oublie ça un petit peu?
Par Nancy Doyon, entre autres,
oui.
Qui est coach familial, qui décrit très bien en entreprise, c'est important que les leaders travaillent ensemble, qu'ils collaborent ensemble. Et souvent, en famille, on ne s'arrête pas pour dire qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre raison d'être?
C'est, ça,
c'est quoi nos
forces,
valeurs? Oui. Très bien dit. Vous avez un bon exemple quand on parle des forces, de dire, bien, toi, t'es fort là-dedans, bien, je vais te laisser gérer ce côté-là. Moi, par contre, je vais plus gérer ce côté-là. Mais ce qui se passe souvent, c'est que le parent ne sera pas nécessairement cohérent par rapport à l'autre parent parce que, justement, il est fatigué, il lâche la serviette, ou je dis souvent, il met les gants de boxe devant ses enfants parce
ouais.
qu'il est tout soufflé, puis il va prendre personnel, puis il va être en réaction plutôt qu'être en communication, soit avec son conjoint ou avec les enfants. Alors qu'en entreprise, bien, souvent, ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler en équipe. On s'entend que ce n'est pas dans toutes les entreprises,
non.
mais le plus possible, c'est ce que les leaders en entreprise vont amener leurs employés à faire. Bien, nous, c'est un peu l'image qu'on a à travers la famille, une sacrée entreprise, c'est-à-dire comment les parents peuvent s'asseoir ensemble et même avec les enfants pour dire quelle est notre mission, quelle est notre raison d'être, qu'est-ce qu'on veut en famille. Chaque famille est différente, est unique, ils ne veulent pas nécessairement les mêmes choses. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? Puis après ça, ce que ça fait, c'est que ça donne du sens à nos actions. Et c'est beaucoup plus motivant de se mobiliser à la fin d'une journée quand on est fatigué, quand on sait pourquoi on le fait, où ça va nous mener justement de rester alignés, cohérents, cohérentes avec nos valeurs puis avec ce qu'on a décidé en couple et en famille, dépendamment de l'âge des enfants, là,
oui.
évidemment.
Vous parlez même, Annie, dans ce livre, que les familles peuvent se donner un petit slogan.
Oui, pourquoi pas?
C'est rigolo comme tout ça,
oui.
et assez nouveau. À quoi ça peut ressembler, un slogan de famille?
Ça pourrait être un pour tous pour un, par exemple. Je prends cet exemple-là, mais c'est d'y aller vraiment avec la couleur de la famille
mm-hmm.
et de l'adapter à l'âge des enfants. Donc, que les enfants soient tout petits ou qu'ils soient adolescents, je pense aux ados peut-être qui ne voudront pas avoir un slogan, par exemple, ça pourrait être un signe. Tu sais, moi, j'ai une adolescente qui a presque 16 ans. Je ne suis pas certaine qu'elle voudrait qu'on lance un slogan. Ça se peut que oui, mais ça se peut que non. Mais à ce moment-là, ce qu'on propose aux parents dans le livre, c'est vraiment de faire preuve de créativité, d'y aller avec, pas forcer les enfants ou les ados à participer, mais vraiment d'y aller avec la couleur de chacun et la couleur de la famille. Donc, par exemple, ça pourrait être un slogan, ça pourrait être un signe qu'on se fait. Donc, quand on est dans un lieu public, bien, plutôt que lancer ce slogan, bien, ça peut être de se faire un signe, puis ça nous rappelle qu'on est unis, justement, un peu comme une équipe sportive, finalement,
oui, oui.
Qu'on pourrait retrouver, là.
L'une des choses que vous proposez aussi, c'est de bien se fixer les objectifs, comme vous
oui.
l'avez mentionné tout à l'heure, mais parfois, c'est difficile de même commencer, amorcer cet
oui.
exercice, parce qu'on ne sait pas trop ce que l'on veut, on ne sait pas comment orienter notre
mm-hmm.
réflexion. Quel genre de questions faut se poser pour bien établir ces objectifs-là?
Bien, justement, le livre, bien, C'est sûr que, bon, je l'ai coécrit, là, mais je trouve qu'on a réussi à bien le faire en ce sens-là, c'est-à-dire qu'on y va étape par étape avant d'arriver à demander aux parents ou aux lecteurs de fixer des objectifs. Nous, on les invite à garder le cap. Donc, d'abord, de comprendre, oui, d'apprendre et de prendre des commandes. Le livre est vraiment divisé en trois parties. Donc, la première partie, c'est comprendre d'abord soi-même. Donc, c'est quoi nos réactions en famille, nos valeurs, notre mission, notre vision, de se questionner. Donc ça, c'est sûr qu'après ça, ça va faciliter, je dirais, le plan de match qui est beaucoup plus loin dans le livre. Donc d'abord, apprendre à se connaître. Ensuite de ça, de devenir un peu comme des enquêteurs, c'est-à-dire dans notre famille, de regarder notre entourage, comment ils réagissent pour apprendre à les connaître davantage aussi. Mm-hmm. Donc après ça, de s'ouvrir, si je m'ouvre à la perception de l'autre, si je m'ouvre à leur vision, ça va faire en sorte que ça va ouvrir la mienne. Donc, ça va être plus facile après ça d'établir un plan parce que je n'aurai pas seulement que mes valeurs ou mes objectifs personnels en tête de parents. Je vais avoir aussi ceux, par exemple, de mon conjoint, oui, et ceux de mes enfants. Donc, après, ça va être plus facile d'établir un plan. Donc, je sais que votre question, c'était quelle pourrait être la question. Je vous dirais qu'il n'y en a pas seulement qu'une. Oui. Il y en a plusieurs établir le plan.
Annie, il faut se donner le temps de faire, mm-hmm, ça. On disait tout à l'heure, ben, oui, souvent avec les exigences en ce moment, notamment du milieu du travail, oui, du milieu professionnel, on arrive, on est essoufflé. Tout ça, là, ça se fait pas en une semaine.
Bien, ça dépend, je vous dirais, de chacune des familles. Moi, je propose que ça soit vraiment une démarche à court et moyen terme. C'est, mm-hmm, pas un livre, je pense, qu'on lit du début à la fin, qu'après ça, on met dans notre bibliothèque, puis on dit, bon, ben ou je le passe au suivant. C'est vraiment un livre qui va évoluer avec la famille. C'est-à-dire qu'on peut faire une famille pourrait décider de faire ça, par exemple, dans une semaine de relâche ou dans une fin de semaine, puis de mettre tout ça en place. Comme une autre famille pourrait dire, bien, les prochaines semaines, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va apprendre à se connaître davantage. Mm-hmm. Moi, en tant que parent, je vais apprendre à me connaître davantage. Après ça, la semaine suivante, ça pourrait être une autre étape. Donc, je dirais que chaque individu, chaque famille est complexe et différente, et c'est important d'en tenir compte. C'est pour ça qu'on appelle ça la collection auto-coaching. Oui. C'est-à-dire que chaque personne et chaque famille a un rythme différent. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas une seule recette qui est gagnante. Il y a autant de recettes gagnantes qu'il y a d'individus qui vont lire le livre. Donc, c'est vraiment, on va inviter les parents à aller à leur propre rythme.
Ça revient à nommer l'unicité de chaque, oui, famille.
Oui, exactement. Puis, entre autres, dans les questions qu'on peut se poser par la suite tout au long de la lecture, il y a vraiment des questions du début à la fin du livre. D'ailleurs, on invite les lecteurs à s'ouvrir un dossier qu'on appelle, là, oui, que ça peut être soit à l'ordinateur ou par écrit, auto-coaching, dans lequel ils vont écrire leurs réflexions, leur introspection qu'ils vont faire là, tout au long de la lecture, pour, par exemple, se poser des questions telles que « qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui est important pour moi en famille? Qu'est-ce que je veux à court, à moyen, à long terme en famille? C'est quoi
qu'est-ce
mes valeurs importantes? »
Qu'est-ce qui nous distingue aussi?
Oui, exactement. D'ailleurs, c'est une des questions importantes du livre. Là. Qu'est-ce qui nous distingue des autres familles? Et ça, c'est un bon point de départ.
Oui. Il y avait un passage que je trouvais particulièrement intéressant, Annie, à savoir tout le danger qu'il y a lié aux comparaisons. Souvent, oui, on compare les enfants. « Ah, ton frère est comme ça » ou « Ah, moi, ton âge, ça se passait comme ça ». Et tout ça, bon, il y a ce passage-là, mais à plusieurs moments, on parle des pensées limitantes, mm-hmm, qui peuvent être un danger pour notre parcours et notre épanouissement.
Oui, en fait, c'est que la comparaison, au départ, ça peut sembler valorisant parce que parfois, on compare pour faire des compliments aussi. Hein. Toutefois, il faut, ouais, se rappeler que c'est très réducteur quand on fait une comparaison. Parce qu'en fait, c'est une perception. Quand on fait un compliment à quelqu'un ou on lui dit « j'aimerais ça que tu améliores telle chose », ce qu'on fait, c'est qu'on le fait à partir de notre vision. Mais cette vision-là, elle est très réductrice parce qu'on a chacun une vision de la réalité. Et souvent, en tant que personne, on a l'impression que notre vision, c'est la réalité, alors que ce n'est qu'une partie infime de la réalité. Parce que dans le fond, notre perception, notre vision, elle est influencée par exemple, notre éducation, elle est influencée par qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent, les expériences qu'on a vécues également. Donc, dans la famille, on a tous des visions différentes. Alors, si moi, je fais un commentaire, par exemple, à un enfant ou à un conjoint, une conjointe, ça va être à partir de ma perception uniquement. Donc, ce que ça peut faire, c'est que même quand c'est positif, ça peut mettre une pression chez l'autre personne de « OK, je dois continuer à performer, je dois continuer à être comme ce qu'on vient de me mentionner par la, par cette perception-là, par ce commentaire-là. Mmh. Donc, nous, ce qu'on suggère davantage dans le livre, si on veut comparer, c'est de comparer, par exemple, l'enfant à lui-même ou le conjoint, la conjointe, à lui-même, dire « Wow, je trouve que tu as fait des beaux progrès dans tel domaine, je suis fière de toi. As-tu remarqué que t'es de plus en plus ponctuel? As-tu remarqué ci? As-tu remarqué ça? » Donc, vraiment d'amener l'enfant à lui-même remarquer ce qu'il fait, par exemple, de mieux, ce qu'il améliore, et ça va aider par le fait même à son estime de soi. Là.
Tout ça, voilà, pour parler d'estime personnelle.
Entre autres, ouais.
Un point de vue que je trouve important, notamment, Annick, vous avez énormément travaillé auprès des adolescents pendant 17 ans,
oui,
si je ne me trompe pas.
Ouais.
Vous avez enseigné à des adolescents. En ce moment, on parle beaucoup de la santé, autant santé mentale que santé globale des adolescents, peut-être liée à soit l'intimidation, l'hypersexualisation ou encore la disparition de jeunes filles. Là. Beaucoup, mm-hmm. on en a parlé dans les dernières semaines. Comment on fait pour mieux encadrer notre ado, être un meilleur parent d'adolescent?
C'est une très bonne question. Avez-vous 2-3 heures devant vous? En fait, je dirais d'abord, au niveau de l'estime de soi, en travaillant sur la nôtre. Donc, si en tant que parent, on travaille sur notre estime personnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on devient un modèle, dans le fond, inspirant pour nos enfants, parce que nos enfants, ils apprennent beaucoup parce qu'ils vont voir, hein, ils vont modéliser les personnes qu'ils voient autour d'eux. Donc, si j'ai plutôt tendance à baisser le bâton, j'appelle ça le bâton de la culpabilité, pour être bienveillante envers moi-même, il y a plus de chances que, par exemple, mon enfant le soit envers lui-même ou envers elle-même. Donc, mm-hmm. je dirais que c'est d'abord un premier pas de cultiver la nôtre. Ensuite de ça, je dirais aussi, c'est de l'aimer tel qu'il est.
Ouais.
Donc, et non pas, ben quand tu vas gagner au baseball ou quand tu vas t'améliorer au soccer, je vais encore plus t'aimer, puis je vais te faire des compliments ou je vais te donner des marques d'affection quand tu vas compter un but. Je dis pas que c'est mal d'en donner, évidemment, on a le droit d'être fier puis de l'encourager, mais c'est aussi d'en donner, justement, quand ça va moins bien ou dans des moments banals de la journée pour pas qu'il fasse nécessairement l'association de « parce que j'ai fait ça, ben c'est dans ce temps-là que je reçois de l'amour ». Donc, qu'il ressente qu'il est aimé pour qui il est et non pas pour ce qu'il fait.
Oui.
Même chose, évidemment, pour les conjoints et les conjointes. Comme je disais tout à l'heure, de les comparer à eux et non pas aux autres personnes. Ça aussi, c'est sûr que ça vient cultiver l'estime de soi. Être là, être vraiment présent de corps et d'esprit. Tout à l'heure, au début de l'émission, on a parlé de la course, hein, souvent les parents par rapport au travail et tout ça. Moi, ce que j'observe beaucoup chez les parents, c'est que souvent, ils vont être là de corps avec leur enfant, mais ils ne sont pas connectés à eux. Ils vont mm-hmm. avoir l'esprit ailleurs ou ils vont faire autre chose en même temps. Donc ça, ça vient aussi solidifier les liens qui vont faire en sorte que la journée que notre enfant va consommer de la drogue ou va avoir des problèmes dans X domaines de sa vie, va sentir qu'on est là, pas juste de corps, mais qu'on est là pour répondre à ses questions, qu'on est disponible. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent, qui se voit, qui s'entend. Donc, même si je dis à mon enfant, oui, je t'écoute, mais s'il sent que je suis en train de faire autre chose ou que ma tête est ailleurs, j'ai beau être assise au parc avec mon enfant, s'il sait que je suis sur mon iPhone en train de faire autre chose ou il sent que ma tête est ailleurs, mais c'est certain que j'ai moins de chances d'avoir des confidences, par exemple, à l'adolescence. Et cette relation-là se cultive pas seulement à l'adolescence.
Voilà.
Des fois, les parents, ils font, ben voyons, pourtant, j'essaie de parler de sexualité, j'essaie de faire l'éducation, j'essaie de prévenir sur plein de thèmes. Mais c'est sûr que si on n'a pas bâti la relation plus jeune, c'est encore possible de le faire, évidemment. J'ai la croyance qu'on peut toujours le faire. Mais c'est sûr que plus on commence jeune, ben la relation risque d'être assez solide puis ça risque d'être plus facile d'aborder certains thèmes si on a commencé à le faire quand les enfants étaient jeunes, par exemple, l'éducation mm-hmm. à la sexualité.
Et tout ça vient d'une saine, d'une bonne communication, autant
Exactement.
Entre les enfants, entre les conjoints
oui.
et parents, enfants. Et ça, en terminant, quelques trucs
oui.
pour peut-être amorcer la réflexion chez les familles qui nous écoutent.
Oui. Bien, ce que j'aime beaucoup parler quand on parle on aborde le thème de la communication, c'est la communication non verbale.
Mm-hmm.
Parce que souvent, quand on parle de communication, on pense beaucoup à, oui, écouter, utiliser les bons mots, mais on oublie que la communication, la plus grande partie de la communication, elle est non verbale. Donc, comme je disais tout à l'heure, d'être présent, par exemple. Ça peut être aussi au niveau de la communication de se connecter à l'autre en l'imitant, entre guillemets, c'est-à-dire, évidemment, pas faire tous ses faits, ses gestes. Mais, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'adolescent. Si l'adolescent est écrasé sur le sofa à écouter la télé, oui. puis là, j'arrive près de lui, puis je veux parler d'un sujet quand même délicat, c'est sûr que si lui, il est assis, puis moi, je suis debout, on n'est pas synchronisé. Donc, si, par exemple, je vais m'asseoir à côté de lui, je m'assois, position quand même semblable, relax, dans la même position qu'il est, puis là, je commence à dire, « Hey, c'est le fun, qu'est-ce que tu écoutes à la télé? Ou c'est quoi ton vidéo? » Puis là, je m'intéresse à lui, donc je vais dans sa carte du monde, dans ses intérêts, je suis un peu la posture semblable. S'il parle lentement, je vais baisser peut-être le volume de ma voix ou plutôt le débit de ma voix pour m'ajuster à comment lui, il est. Il va se sentir compris. Mm-hmm. Même si je lui dis pas que je suis là avec lui puis que je le comprends. Et après ça, ça va être plus facile de l'amener dans ce dont moi, j'ai envie de lui parler.
Oui. Au même titre que l'on s'accroupit lorsqu'on veut parler à un petit
très
enfant.
Très bon exemple.
Voilà. Annie Germain, c'est vrai que l'on aurait eu besoin de 2-3 heures pour en parler, mais vous savez
vous
quoi?
Vous me réinviterez, ça
voilà,
me fera plaisir.
Vous reviendrez, ça nous fera plaisir également. La famille, une sacrée entreprise, c'est publié aux éditions de l'Homme en collaboration avec plein d'auteurs, dont Annie Richard et Nicolas Beffort. Je prononce bien le
oui,
nom,
c'est
Beffort,
bien ça.
Voilà.
Ouais.
Annie Germain, ça a été un plaisir de vous rencontrer. On va laisser le www.anniegermain.com pour en savoir davantage. Et il y a aussi un autre site
oui,
à donner,
autocoaching.ca.
Voilà, pour continuer notre travail en famille. Peu importe quel type de famille on a tous des défis. Merci.
Bonne fête de journée.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de te recevoir ici pour parler d'Irma Levasseur, première femme médecin canadienne-française. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est assez intéressant parce que oui, on nous livre, tu vas nous livrer ce portrait de cette femme, première grande scientifique, première médecin, mais en même temps, c'est un peu une histoire de la femme ici au Québec. Et ce qu'il faut savoir est qui peut être assez confrontant, c'est qu'elle n'a pas pu étudier ici parce que les études en médecine ne se donnaient pas.
Oui, j'ai vu qu'en fait, elle a eu son diplôme 18 ans avant que les femmes ne puissent entrer à McGill et 30 ans avant l'Université de Montréal. J'ai vu des données contradictoires par rapport à l'Université Bishop.
Oui.
Là, c'était pas clair.
Près de Sherbrooke, oui.
Donc, née à Québec, de parents quand même hors du commun. La mère est cantatrice, son père est journaliste, écrivain. Et après avoir complété son cours classique et fait 2 ans d'école normale, hein, les femmes, on les destinait souvent à l'enseignement quand elles faisaient des études, elle décide d'aller étudier la médecine aux États-Unis. Tout de suite après avoir eu son diplôme, elle pratique à New York, mais elle décide de revenir ici. Et il faudra qu'elle obtienne, grâce à une loi privée, en fait, le droit, la reconnaissance de son diplôme et le droit de pratiquer au Québec.
Oui.
Donc, à chaque fois, c'était du cas par cas. On appelait ça un bill privé.
Il fallait presque que les femmes demandent la permission. Là.
Voilà. Mmh. Et généralement, elles étaient cantonnées à la pédiatrie, à la gynécologie et à l'obstétrique. Or, justement, elle s'intéresse beaucoup à la question des enfants, à la forte mortalité infantile à Montréal. À l'époque, on parle de mortalité avant l'âge d'un an, principalement à cause de la non-pasteurisation d'une partie du lait et de l'eau qui n'était pas toujours bien traitée. Donc, elle s'en va en Europe pour se spécialiser auprès de grands pédiatres. Et puis, quand elle revient, c'est là qu'elle approche des gens dans le but de créer le premier hôpital pour enfants pour la clientèle francophone. Le Children's existait déjà.
OK.
Mais elle approche des gens de la bourgeoisie francophone, dont Justine Lacoste-Beaubien, qui n'a pas d'enfants et dont la famille a beaucoup d'argent, qui embarquera dans le projet. Notre fait à noter, le gouvernement aussi a fait une loi pour déresponsabiliser les maris des femmes qui investissaient là-dedans de la responsabilité financière parce que normalement, ça les engageait automatiquement.
Est-ce qu'elle s'était inspirée de certains modèles en Europe qu'elle ramenait ici?
Bien, on sait qu'elle a, en Europe, étudié auprès d'une éminente pédiatre, mais je ne sais pas si elle s'en est inspirée pour le modèle d'hôpital. Elle est encore très jeune, hein? Elle a 25 ans à ce moment-là.
Okay.
Et là, arrive ce qui va se reproduire à plusieurs reprises. Les affaires sembleraient que ce n'était pas son fort et elle va être exclue du conseil d'administration. Et Serge Bouchard a dit d'elle qu'il sera parent tout au long de sa carrière et de sa vie, que la docteure Irma n'avait ni le sens des affaires, ni le sens de l'argent, ni le tact, ni le flair politique pour survivre dans les administrations. Elle quitte l'hôpital Sainte-Justine et répond à l'appel, un appel qui avait été lancé pour aller soigner les gens atteints du typhus en Serbie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment
des conditions particulières.
Oui. Immuniser 1000 personnes par jour dans des conditions vraiment difficiles. Et parfois, elle doit trouver elle-même la nourriture, abattre des chèvres. En tout cas, c'est vraiment des conditions incroyables. Je pense que c'est dans ces circonstances-là qu'elle était à son meilleur. Ouais.
Mais vraiment comme une soignante de première ligne, peut-être davantage que quelqu'un qui administre. Là.
Voilà.
Et on le verra du côté de Québec par la suite.
Bien voilà, c'est ça. À son retour, elle fonde, avec les docteurs Édouard Sanson, orthopédiste, et René Fortier, pédiatre, un nouvel hôpital pour enfants, cette fois-ci à Québec. Ce sera l'hôpital de l'Enfant-Dieu. Elle achète elle-même la maison sur Grande Allée où est fondé l'hôpital. Mais l'histoire se répète. Encore une fois, elle ne s'entend pas avec le conseil d'administration. Elle quitte et elle perd beaucoup d'argent dans la vente de la maison qu'elle avait payée avec ses propres économies. Elle met sur pied brièvement une clinique, mais encore une fois, des problèmes financiers. Et là, ensuite, elle milite pour que soit créée une école pour les enfants handicapés, un projet qui sera éventuellement mené à terme par la Ligue de la jeunesse féminine de Québec, qui deviendra l'école Cardinal Villeneuve, qui a été fondée en 1935.
Et maintenant, on nous dit peut-être un palier de l'Institut de réadaptation des déficiences physiques du Québec.
Oui, c'est ça. C'est ce qui est devenu l'institution depuis. La dernière activité médicale qu'on lui connaît, c'est d'avoir examiné des recrues féminines qui voulaient entrer dans l'armée canadienne au manège militaire de Québec lors de la Seconde Guerre mondiale.
Et elle finit sa vie dans des conditions, disons, plutôt... pas alarmante, c'est pas le bon terme, mais plutôt triste, là, on peut
vraiment
dire comme
ça. Vraiment dans l'oubli. Elle se retire dans une petite maison rue de l'Artillerie à Québec. Elle vit dans la pauvreté, dans le dénuement et dans l'oubli. Il y a des membres de la famille éloignée qui lui amènent de la nourriture pour qu'elle puisse se nourrir. Elle est vraiment recluse. On dit que... Bon, finalement, elle est internée à la clinique Roy-Rousseau de l'hôpital Saint-Michel-Archange en 57-58. C'est un internement psychiatrique.
Ouais, on comprend.
Et ce sera son dernier grand combat, en fait, d'essayer de sortir de là. Elle a finalement réussi à faire la preuve qu'on l'avait maltraitée sans raison ni diagnostic et que juste pour se débarrasser de cette vieille vivant seule.
Et elle a eu une reconnaissance suite à sa mort posthume. En 30 secondes?
Oui, bien, il y a un prix à son nom. Il y a une place aussi à Charlebourg, à Québec, qui lui rend hommage. Oui.
Et aujourd'hui, bien, on pense à elle. Grâce à vous, grâce à toi, Christiane Campagna, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Merci, Jean-Sébastien, aux tout nouveaux cheveux. C'est le printemps qui amène cette nouvelle coupe de cheveux, j'imagine, Jean-Sébastien Laliberté. Marianne Paquette, au micro, on se donne rendez-vous demain, 14 h. Portez-vous bien. Bye-bye.